Second signe de paternité, la grâce donnée par le sacrement de mariage.
Puisque la grâce ne détruit pas la nature, la grâce veut donner au père de famille une responsabilité dans l'ordre surnaturel. Et alors à ce moment-là, nous touchons justement le mystère de la grâce chrétienne. Nous touchons ce mystère de la grâce chrétienne qui fait que nous sommes liés au Christ, comme le Christ est roi. À la croix, et que nous sommes nés de la croix, nous pouvons dire que dans notre grâce chrétienne, il y a quelque chose de royal. Alors, ici, ce serait à découvrir selon toutes les étapes de la vie chrétienne. Je regarde ce quelque chose de royal dans le Père et dans la Mère, puisque c'est ça qui m'intéresse. Il y a quelque chose de royal dans la grâce du Père, et je crois qu'on peut dire que c'est dans la grâce du sacrement de mariage qui donne au Père et à la Mère cette dimension spéciale. Tous les chrétiens ont quelque chose de royal par la charité fraternelle. Puisque par la charité fraternelle, on est tous responsables les uns des autres. C'est royal cela. Dès qu'on se rencontre, on est responsables les uns des autres. Et parce qu'on est responsables les uns des autres, il y a cette autorité royale à exercer les uns sur les autres. Souvent dans un très grand effacement, souvent dans une très grande pauvreté, souvent dans une très grande humilité. On doit exercer les uns sur les autres cette charité fraternelle par où nous sommes responsables les uns des autres en face de Dieu. Vous comprenez que dans le sacrement de mariage, la charité fraternelle s'exerce selon une modalité particulière. Et donc, la responsabilité du Père est en premier lieu une responsabilité à l'égard de son épouse. Et la responsabilité de l'épouse regarde son époux. Il y a, dans la grâce du sacrement de mariage, cette responsabilité réciproque de l'époux et d'épouse qui font que l'un en face de l'autre et en face du Christ, il doit être une présence vivante, l'un pour l'autre, de Jésus dans sa royauté. Alors ici, je crois que cette royauté surnaturelle qui doit s'exercer entre les époux, c'est avant tout la grandeur d'âme. C'est royal la magnanimité. Vous savez, il y a diverses manières d'exercer une autorité. Il y a une manière du pion. On sait très bien ce que c'est. Vous appliquez le règlement. Et si on vous dit tout simplement que c'est pas très agréable, je n'en peux rien, c'est le règlement. C'est comme ce professeur de théologie qui commençait à faire son traité sur les peines éternelles, alors il disait ça en latin, je suis obligé de faire le traité sur les peines éternelles de l'enfer, ce n'est pas ma faute. Alors vous voyez bien qu'à ce moment-là, il était un peu pion, n'est-ce pas, tout simplement, il observait le règlement. En voulant dire, ah, si j'étais à la place de Dieu, j'aurais pas fait ça. Hein. Voilà un très mauvais professeur de théologie, alors, parce qu'il n'essaie pas de comprendre les choses profondément. Il y a des gens qui exercent l'autorité comme ça. Ah, le règlement, que voulez-vous, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais je dois l'exercer, je suis là. Alors vous exercez une autorité de pion. C'est évidemment ce qu'il y a de plus loin de l'exercice royal de l'autorité. C'est pour ça que je le prends. C'est un peu la caricature. Le roi exerce l'autorité en prenant une responsabilité ultime. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le propre de la royauté. C'est la responsabilité ultime et donc fondamentale et première. Et c'est pour ça qu'il doit exercer l'autorité d'une façon magnanime. C'est-à-dire en prenant toujours sur lui ce qu'il y a de plus difficile. C'est ça être magnanime dans l'exercice de l'autorité. C'est toujours, autant que possible, faire ce qu'il demande de faire aux autres, le faire lui-même et de le faire d'une manière plus parfaite. Alors il devient, à ce moment-là, un peu cause exemplaire. Pour exercer pleinement l'autorité, il faut entraîner, être cause exemplaire. Un peu panache. Pas trop, parce que ce serait faux. Mais l'être foncièrement, en profondeur, eh bien je crois que l'autorité de l'époux, à l'égard de l'épouse, parce que l'épouse a quand même une autorité sur l'époux. On dit toujours l'autorité de l'époux sur l'épouse, c'est très juste, mais comme on dit que c'est réciproque, vous comprenez, il faut donc regarder aussi l'autre point de vue. Et il y a une autorité de l'épouse sur l'époux. Quand on aime quelqu'un, profondément, on a une certaine autorité sur lui, toujours. Une autorité qui est tout entière dans l'amour, enfermée dans l'amour, qui est ordonnée à l'amour et qui provient de l'amour, mais on exerce une certaine autorité. Je ne dis pas que les enfants exercent une autorité sur leurs parents, ça ce serait pas tout à fait juste. Ils peuvent les aider, les soutenir, et quelquefois quand ils grandissent, ils sont un peu cause exemplaire, ça c'est autre chose. Hein. Mais ici, je vois avant tout, quand il s'agit de l'époux et de l'épouse, et comprendre cette fonction royale, qu'on n'a pas mise assez en lumière, comprendre que l'époux, en exerçant son autorité sur l'épouse, doit lui faire comprendre que c'est lui qui prend la responsabilité, c'est lui qui prend la charge la plus lourde, qui veut prendre la charge la plus lourde, par amour, non pas pour s'exalter, mais par amour. Pour être plus proche, pour aider, pour soutenir, et qu'il réclame de l'épouse aussi son autorité. Je crois que l'époux doit souvent le demander à l'épouse. N'hésite pas, dans ton amour, de me dire ce que toi tu vois et que moi je ne vois pas toujours. C'est un geste d'humilité, mais c'est un geste très grand, et qui est royal, parce qu'il est magnanime. Reconnaître ses limites dans l'exercice de l'amour, reconnaître ses limites dans l'exercice de l'autorité, c'est royal. Il n'y a que le pion qui ne reconnaît pas ses limites. C'est magnanime de reconnaître ses limites. Et c'est d'accepter la coopération de l'autre qui exerce sur nous son autorité. Et de lui demander de l'exercer le mieux possible. Et alors à ce moment-là, il y a comme une espèce d'échange qui se fait dans l'amour. Et il y a, par le fait même aussi, une complémentarité beaucoup plus forte. parce qu'on reconnaît que dans certains domaines, on a des compétences plus grandes que dans d'autres domaines, c'est l'autre. Et on lui demande d'exercer à ce moment-là l'autorité. Et ça permet par le fait même un échange beaucoup plus profond. Et je crois que c'est cela, l'autorité royale. Parce qu'elle est fidèle dans cette coopération. Et elle a quelque chose de beaucoup plus grand. Parce qu'à la place d'être uniquement soumis, on aide à permettre à l'amour d'aller plus loin. Et si on aide à l'amour de s'épanouir, on a par le fait même une force beaucoup plus profonde. Mais c'est évidemment surtout à l'égard des enfants que la grâce du sacrement de mariage, je dis surtout, comprenez bien, c'est premièrement vis-à-vis de l'épouse et vis-à-vis de l'époux. Mais surtout au point de vue de la manifestation. Surtout au point de vue de l'exercice. C'est évidemment à l'égard des enfants que ce pouvoir royal, que cette autorité royale du père et de la mère dans l'ordre surnaturel et divin va se manifester le plus. Alors essayons de regarder quelques-uns de ces aspects. Le premier, c'est que dès que les parents savent qu'ils attendent un enfant, ils doivent le porter dans la prière. L'autorité royale de la charité fraternelle s'exerce en premier lieu dans la prière. Quand on prie pour quelqu'un, on le porte. Quand on prie pour quelqu'un, on l'aide. Quand on prie pour quelqu'un, on devance ses décisions. Prier pour quelqu'un qui nous est cher, que nous aimons, qui est tout proche de nous, c'est exercer une autorité royale et maternelle. C'est extraordinaire. J'aime toujours beaucoup, quand je prêche des retraites, de demander à ceux qui suivent la retraite de prier pour le prédicateur. Parce que comme ça, si le prédicateur leur fait du bien, elles peuvent se dire « c'est grâce à ma prière ». N'est-ce pas ? Et alors, elles écoutent beaucoup mieux, c'est évident. S'il dit des choses étonnantes, c'est grâce à ma prière. Vous voyez, c'est très important. C'est la coopération, mais une coopération royale. Parce que par la prière, vous devancez. Et donc, vous portez devant. Et c'est quelque chose de magnanime de porter devant. De supporter. Eh bien, je crois que c'est très important de comprendre cela. Que l'attente de l'enfant dans la famille, qui est quelque chose de si important, se fait dans la prière. L'autorité du père et de la mère n'est royale que lorsqu'elle se réalise à travers la prière. Parce qu'elle est plus semblable à Dieu. Il faut comprendre que cette autorité royale, surnaturelle, dans la charité fraternelle, donne aux parents une responsabilité à l'égard du baptême de leur enfant. C'est les parents qui demandent le baptême, ce n'est pas le prêtre. Et les parents demandent le baptême en faisant comprendre aux prêtres qu'ils sont capables de réaliser toutes les obligations qui suivent ce baptême. Ils exercent donc là leur autorité vis-à-vis de l'enfant. Et une autorité royale. Puisqu'ils sont de fait source, par leur demande, de la grâce de leur enfant. Pas source principale, c'est évident. Mais ils sont source. Dieu veut que ça passe par eux. Et le père et la mère doivent comprendre que c'est eux qui, dans leur décision, ayant demandé le baptême pour leur enfant, resteront toujours en face de Dieu, source de cette grâce. Saint Thomas dit que la prière des saints fait partie de la prédestination. Et je crois qu'on peut dire que la prière des parents et la demande des parents de recevoir le baptême pour l'enfant fait partie de la prédestination de l'enfant. C'est Dieu qui l'a voulu comme cela. Et dans ce sens-là, c'est royal parce que ça touche directement les décisions les plus profondes de l'unique Père qui est dans les cieux. Les décisions les plus profondes du cœur du Christ qui nous prédestine avec le Père. Les parents coopèrent à la prédestination de leur enfant. Par leur prière, par leur demande, par leur éducation, puisque après le baptême, c'est l'éducation religieuse et chrétienne. Et les parents doivent très vite comprendre qu'ils sont responsables de l'éclosion de la grâce dans le cœur de leur tout-petit. Ils le sont avant le prêtre. Et ils le sont donc plus radicalement que le prêtre, plus fondamentalement que le prêtre. Ils doivent porter l'enfant dans leur éducation et dans la prière qu'ils feront avec eux. C'est pour ça que c'est si important la prière commune dans la famille. L'exercice de l'autorité du père et de la mère. Tant que l'enfant est capable de recevoir cette autorité, elle doit être tout imprégnée de charité, tout imprégnée de miséricorde. Il faut que le Père, en exerçant son autorité, montre que cette autorité est divine, et donc qu'elle est miséricordieuse avant tout. Un Père doit, pour ses enfants, être la présence de la miséricorde du Père des cieux, de la miséricorde du Christ. Un père de famille doit relire souvent ce qui nous est montré dans l'Évangile, dans Saint Luc, l'enfant prodigue, la parabole de l'enfant prodigue. C'est pour le Père. Et il faut que sa miséricorde aille jusque-là. Voyez, si la mère doit être servante d'une manière si profonde qu'elle soit capable de donner sa vie pour son enfant, le père doit être capable de donner son honneur, doit être capable d'offrir tout ce qui pourrait représenter sa gloire pour le bien de ses enfants. Il doit être capable de donner ce qui serait normalement un épanouissement pour lui. Pour le bien de ses enfants. Ah, il ne doit pas le faire, hein, d'une façon idiote. Ce serait très très mauvais. Un très mauvais exemple. Il doit le faire avec une grande intelligence. Et savoir que c'est vraiment cela que Dieu demande. Je crois que l'exercice de l'autorité royale du Père dans l'ordre de la charité fraternelle exige l'héroïsme. C'est héroïque d'être père. Dans ce sens-là que c'est royal. Parce que offrir pour le bien de ses enfants ce qui nous tient quelquefois si profondément à cœur, c'est pas commode du tout. C'est lutter contre l'égoïsme foncé qui est en nous, que voulez-vous. On est foncièrement égoïste. Alors, ce qui est vrai du père est vrai du grand-père aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Et même d'une façon encore plus grande, j'allais dire. Parce que normalement, on a l'expérience du père et l'expérience de la maternité, et on s'aperçoit mieux avec l'âge qu'on a mal fait la chose. Hein. Alors, rattrapons-nous pour la paternité du grand-père et la maternité de la grand-mère. Il faut se rattraper à ce moment-là. Et c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, on est infiniment plus miséricordieux. L'âge de la justice, c'est quand on est en pleine force. Et l'âge de la miséricorde, c'est quand on est plus âgé. C'est très rare des jeunes qui exercent autorité et qui sont miséricordieux. tandis que ceux qui sont plus âgés et qui exercent l'autorité, ordinairement l'exercent d'une façon beaucoup plus miséricordieuse. Alors c'est très important pour le père et le grand-père. Alors vous voyez, les pères doivent un peu demander conseil aux grands-pères de temps en temps. Je ne demande pas aux belles-mères, mais aux grands-pères, n'est-ce pas? Alors c'est autre chose. Et aux grands-mères, hein, mais pas en tant que belles-mères, hein, c'est différent, c'est très différent. On doit distinguer les deux, c'est deux fonctions différentes. On doit demander conseil aux grands-pères pour savoir jusqu'où on doit aller dans la miséricorde. Et il peut y avoir une coopération. Le père, à certains moments, doit comprendre qu'il doit absolument exercer une autorité ferme. Les enfants en ont besoin. Les enfants ont besoin d'une autorité ferme. Et ils demandent au grand-père ou à la grand-mère de compléter. Il y a une complémentarité dans la mesure où Dieu permet que dans un foyer, il y ait les parents, du moins dans un foyer, dans deux foyers, il y ait les parents et les grands-parents. C'est l'ancienne chose de la tribu, n'est-ce pas? On voit très très bien. Et il y avait comme une unité. C'est quand même quelque chose voulu par Dieu, cela, qu'il y ait une paternité et une grande paternité. La paternité du grand-père et la maternité de la grand-mère. Qu'il y ait quelque chose qui permet cela. Parce que je crois qu'en définitive, hein, l'autorité royale du père, je vous disais tout à l'heure, c'est l'alpha et l'oméga. C'est ce qu'il y a de plus fondamental et de premier. Et ce qu'il y a d'ultime. Et c'est vrai que l'autorité du père est l'autorité de la mère. Et l'autorité de la mère encore plus. Si elle est royale, elle est pleine de miséricorde. C'est le roi qui peut en définitive supprimer une condamnation à mort. Alors vous comprenez l'application pour le père, s'il a une fonction royale. Même si l'État te condamne, moi je ne te condamne pas. Un père peut toujours dire ça. Et il doit le dire. Même si tu as fait telle bêtise, eh bien moi je suis là, je suis ton père. Et la mère doit le dire. Et c'est, je crois, là où on voit l'autorité royale du père et de la mère. Où la miséricorde va jusqu'au bout. On peut être déshonoré d'avoir un fils criminel. Il ne s'agit pas à ce moment-là de l'abandonner pour retrouver son honneur. Il s'agit au contraire de le sauver en acceptant perdre son honneur. Parce que l'honneur n'est pas une finalité ultime de la vie humaine, tandis que l'amour et la miséricorde le sont. Et il faut que l'autorité du père et l'autorité de la mère aillent jusque-là, dans l'ordre de la miséricorde, dans l'ordre du don soi-même. C'est en ce sens-là, voyez, que nous pouvons vraiment comprendre que dans un monde comme le nôtre, où nous avons tellement de peine de comprendre l'autorité, et l'autorité royale, de comprendre ce que représente la miséricorde du père de l'enfant prodigue, que dans ce monde, la famille doit lutter, ne pas se laisser contaminer, pour maintenir un lieu où l'autorité paternelle et l'autorité maternelle puissent s'exercer pleinement et totalement, avec une très grande exigence et une miséricorde encore plus grande, puisque l'exigence n'est jamais ce qui achève l'autorité, tandis que la miséricorde achève l'autorité. Et il faut que cette miséricorde aille jusqu'au bout. Il faut que cette miséricorde soit paternelle, enveloppante et maternelle, qu'elle porte, qu'elle aide, qu'elle soutienne. tout cela en s'appuyant sur l'autorité royale du Christ qui provient de son sacerdoce. Et cette autorité royale du Christ qui provient de son sacerdoce, elle nous est communiquée par la grâce et dans la grâce. Et le sacrement de mariage fait un lien très particulier entre l'autorité sacerdotale du Christ à la croix et l'autorité sacerdotale du sacerdoce mystique des parents dans leur foyer.